Your attention, please.
Your attention, please.
Your attention, please.
And now the moment we've been waiting for is here.
I have something to tell you.
Bonjour à tous, bienvenue amis auditrices, amis auditeurs sur les ondes du Mix des Cultures. Et oui, tu es bien en direct comme chaque mercredi sur les 99.1 à Rouen et sur sa métropole et partout dans le monde sur le www.radiohdr pour encore une émission à Campus Mac qui va être, ma foi, chargée avec même un invité en direct depuis les studios des Hauts de Rouen. Et ça, c'est le suprême pour cette semaine, puisqu'en plus d'avoir un invité, j'ai mon chroniqueur permanent de la journée et de la semaine en compagnie de Damien. Bonjour Damien.
Bonjour mon cher Loïc, laisse-moi te dire que c'est un plaisir de participer à Campus Mag.
Et c'est une première, je crois.
C'est une première.
De ce duo, peut-être improbable, mais en tout cas on va parler, et le lien évidemment en découle, puisqu'on va parler d'une certaine manière politique dans quelques instants avec ces élections européennes qui vont se dérouler le dimanche 26 mai prochain. On va revenir avec une action qui s'est déroulée, c'était le mardi 14 mai dernier au sein de la mairie annexe Pasteur de Rouen, avec un débat qui a eu lieu avec diverses représentants, de jeunes représentants de diverses tendances politiques. Alors évidemment pas les 34, il y en avait 9 parmi les listes qui sont actuellement en lice pour cette élection 2019. On reviendra sur cette actualité et pourquoi à voter à ces élections européennes avec Thibaut Drouet, le président, alors l'ex-président des Jeunes Européens de Rouen, puisqu'il n'est plus présent que depuis quelques jours. Donc veuillez me pardonner cette petite erreur de syntaxe et de présentation. Il est actuellement secrétaire adjoint du mouvement européen 76. On redira bien évidemment ça dans quelques instants. On fera un petit débriefing justement de cette interview, puisque à l'occasion de rencontrer et de dialoguer avec de nombreux, non pas partenaires, mais personnalités politiques de la région.
Tout à fait.
Et c'est assez, j'allais dire, chaud par moment.
Oui, oui, après, c'est pas forcément les politiques hein, qui chauffent le plus les débats.
Ça peut être aussi le modérateur, on peut dire ça ? Tu fais un peu le rôle de modérateur.
Moi, je suis un modérateur très modéré.
Avec aussi des fois des invités qui le sont un peu moins.
Des citoyens qui se sentent concernés par la situation et qui parfois sont un peu véhéments. Ouais.
On reviendra bien évidemment sur ce petit débrief, donc interview avec Thibaut Drouet dans quelques instants sur les ondes du Mix des Cultures. Et puis notre invité que l'on aura en direct, c'est Enzo Chassonnerie que vous connaissez bien évidemment sur la faculté, puisqu'il a été sous la casquette président de l'UNEF. Mais si vous n'êtes pas encore au courant, il y a un gros rififi en ce moment à l'UNEF, info qui a été balancée d'ailleurs de manière assez brutale par Le Figaro, les étudiants, c'était lundi dernier. Et puis, ça va causer bien évidemment des bouleversements au niveau national, mais aussi au niveau régional, au niveau local, ici à Rouen et au sein de son université. On en reparlera évidemment avec Enzo Chassonnerie dans quelques instants sur les ondes du Mix des Cultures. Et puis, on gardera bien évidemment sous le coude, mon cher Damien.
Ah, mais je suis là, j'y reste, mon cher Loïc.
Pour aussi faire ping-pong. On est là, bien évidemment, en direct jusqu'à 18h. Côté musique, on se fera plaisir, puisque c'est aussi dans quelques jours un autre grand moment de la vie rouennaise. C'est le festival Rush édition 2019 qui se déroule sur la presqu'île Relais du 24 au 26 mai prochain. Pour toutes les infos, c'est bien sûr sur roche.le106.com. Évidemment, on se fera un petit peu de musique tirée de ce festival Rush, et puis une petite pépite qu'on a le plaisir de vous passer, puisqu'on a eu la chance d'avoir justement en version vinyle, et c'est tellement rare, du groupe Beak. C'est un groupe originaire de Bristol en Grande-Bretagne. On va se passer la version tout simplement vinylistique du morceau, puisqu'ils font partie de cette programmation 2019. On va tout d'abord se passer, puisqu'on va rester très franco-français pour la prog musicale, et pour commencer, je pense que tu connais, si je te dis un certain Flatbeat, est-ce que ça dit quelque chose ?
Non, je dois t'avouer que ma culture musicale ne connaît pas Monsieur Flatbeat.
Ça sent que, oui, référence de vieux, voilà, ça y est, ça s'est fait. Mister Oiseau, est-ce que ça te dit quelque chose aussi ?
Alors ça me dit quelque chose parce que je l'ai annoncé dans le Blabla Mix, mais sinon non, je ne connais pas, je suis finalement assez peu musique, mon cher Loïc.
Eh bien écoute, on va se passer ce morceau avant de se retrouver d'ici quelques poignées de minutes pour l'interview avec cette fois-ci Thibaut Drouet. Tout de suite, on va s'écouter Mister Oiseau, extrait de son tout dernier opus avec rythme plat et Mister Oiseau sera, puisque c'est bien de le préciser, sur la grande scène lors de la première date, donc le vendredi 24, donc vendredi prochain, entre minuit et 2h du matin. Il va falloir être évidemment couche tard pour aller assister à ce sublime concert. Mister Oiseau, rythme plat, c'est tout de suite et on vous souhaite bien évidemment une excellente écoute, que vous soyez dans votre voiture, partout, dans votre salle de bain,
rythme
partout.
Plein. Rythme plat, 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 rythme plat.
Mister Oiseau avec rythme plat, un morceau qui je pense fait déjà débat rien que dans l'enceinte de la radio, peut-être une scission, je sais pas, peut-être une scission musicale qui va arriver d'ici 50 minutes, n'est-ce pas mon cher Damien?
Oui, on a un mouvement Aya Nakamura-esque qui souhaite actuellement faire scission de ce studio mon cher Le.
Oui forcément, c'est la musique de vieux, c'est quelque chose qui est sorti il y a plus de 10 ans, donc forcément c'est totalement has-been.
Eh oui, nous sommes avec des jeunes, nos jeunes stagiaires, nos amis stagiaires qui ne sont pas conquis par la musique de vieux.
Non, bah pour la peine, bah tout le monde va avoir un jingle, voilà.
Eh ben voilà.
Le mix. Le mix.
Le mix.
Le partage.
De toutes les cultures.
C'est le mix des cultures.
Et sur le mix des cultures, comme promis, on va parler maintenant Europe avec, en effet, les prochaines élections européennes qui vont arriver dans quelques jours, c'est-à-dire le dimanche 26 mai prochain. Alors pas qu'en France, puisque beaucoup de pays européens vont faire ces élections européennes ce même jour. D'autres vont commencer un petit peu plus tôt, je crois de mémoire, le 23 mai, donc à partir de demain pour l'Irlande, si ma mémoire est bonne, et quelques autres pays qui vont aussi faire le vote le 24 et le 25, mais en tout cas la majeure partie des pays, les trois quarts, le feront bien le dimanche 26 mai prochain. Alors pour parler de ces élections européennes, il fallait évidemment en parler avec une organisation qui est totalement apolitique, évidemment, pour être le plus neutre possible. Et dans ce cadre-là, justement, on a eu l'occasion de rencontrer Thibaut Drouet, qui est l'ex-président des Jeunes Européens de Rouen, mais le secrétaire adjoint du mouvement européen 76 maintenant. C'était donc dans le cadre d'un débat organisé avec 9 jeunes représentants qui avait lieu le mardi 14 mai dernier à Rouen au sein de la mairie annexe Pasteur, et on va revenir bien évidemment sur différentes thématiques, mais avant de parler évidemment Europe, on va tout d'abord parler des mouvements qui co-organisaient ce moment, ce débat. C'était avec les Jeunes Européens de Rouen, le mouvement européen 76 ainsi que l'UEF Normandie. On écoute tout d'abord Thibaut Drouet nous présenter ses différents mouvements au micro de Campus Mag.
Je suis toujours membre des Jeunes Européens à Rouen. Je suis également au mouvement européen 76, donc secrétaire adjoint. et je suis à l'UF Normandie. Donc nos trois associations, donc, je vais commencer par le mouvement européen 76. Il a pour but en fait de parler d'Europe, donc de susciter le débat. On fait divers trucs, par exemple ce week-end on va sur les marchés où il y a les plus forts taux d'abstention pour donner le message européen, dire aux gens que c'est important de voter. Donc on sera samedi au Tréport, au Havre et à Fécamp. Les jeunes européens, c'est la branche jeune du mouvement européen. Donc c'est jusqu'à 35 ans, donc moi j'arrive à la limite, donc j'ai laissé ma place. Et on organise des actions de rue, des débats. La dernière fois, on a fait un after work sur le Brexit. Et l'UEF, donc l'Union des Européens Fédéralistes, donc de Normandie, dont je suis membre également, c'est là on apporte une vision fédéraliste de l'Europe.
Alors au-delà évidemment du côté politique, c'est aussi un parti, si on peut le nommer comme ça entre parenthèses, l'abstention, puisqu'en effet le mouvement des jeunes européens France et l'ANACEJ ont commandé une enquête exclusive sur les jeunes et les élections européennes, et le constat est plutôt alarmant et peut-être voire amer. 23% des 18-25 ans pensent aller voter ce 26 mai prochain contre 52% en mars 2017, ce qui fait de l'abstention le premier parti, je dis bien entre guillemets évidemment, de la jeunesse, avec donc ces 77%. Justement, on a demandé la réaction de notre intervenant Thibaut Drouet.
Je pense que les gens ne vont pas voter parce que ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas parce que c'est compliqué. En même temps, c'est compliqué parce qu'ils ne connaissent pas. Nous, on trouve qu'on ne parle pas assez d'Europe en tant qu'institution dans l'éducation nationale. Dans les programmes, en fait, on aborde souvent l'Europe sous l'histoire, en fait, comment s'est formée l'Union européenne. Mais par exemple, on ne sait pas comment se forme une directive, on ne sait pas le rôle du Parlement européen, de la Commission européenne. Et pour nous, en fait, c'est quand on connaît ça, en fait, les nouvelles sur l'Europe sont plus faciles à aborder. Et donc, en fait, ça donne envie de s'intéresser à tout ce qui se passe en Europe. Et donc, c'est un peu le but de notre mouvement, c'est justement expliquer l'Europe donc, de façon assez simple, puis de plus en plus technique, pour qu'après, les gens savent de quoi on parle quand on parle d'Europe.
Alors c'est justement peut-être cette méconnaissance de l'Europe qui fait que l'abstention reste malheureusement assez forte et encore plus dans le cas des élections européennes. Est-ce que c'est une tendance ou quelque chose que tu ressens, Damien, en tant que justement service civique, puisque tu as l'occasion de rencontrer de nombreux invités lors du Blabla Mix, pas forcément dans le cadre de l'émission politique ?
Moi, j'ai pas l'impression que ce soit un problème de gens qui ne s'intéressent pas ou qui ne savent pas. Ceci étant, en tout cas, du côté des politiques, on retrouve beaucoup cette impression. On parle de pédagogie, que pour lutter contre l'abstention, il faut concerner les gens. Moi, je crois que les gens sont très au courant de ce qui se passe. Après, dans le Blabla Mix, on n'a pas vraiment l'occasion d'en parler, mais au moins autour de moi, j'ai l'impression qu'on est tous au courant. Et je pense que le problème est bien plus complexe que juste les gens ne savent pas comment fonctionne l'Europe, ceci, cela.
Alors, il y a un mot qui peut revenir, c'est aussi la désaffection. Pourquoi une telle désaffection des urnes de la part des jeunes ? Puisque si on reprend, on va dire, les tendances assez globales des derniers sondages, instituts de sondage, donc qui placent 19% pour le Rassemblement national, en légère hausse par rapport à la Renaissance, donc le parti de l'actuel président à 18%, 16% pour Europe Écologie Les Verts et 12 sièges, pardon, non pas en pourcentage, mais en sièges, excusez-moi, pour la France insoumise. Alors là, cela concerne évidemment un sondage au niveau de la tranche des jeunes, donc 18-25 ans. Et justement, cette désaffection, on a souhaité avoir l'avis aussi de Thibaut Drouet sur les ondes du Mix des Cultures.
Je pense que les nouvelles générations, en fait, entendent encore moins parler d'Europe qu'avant. Par exemple, moi, j'ai grandi à l'époque où c'était le traité de Maastricht. Et donc, on parlait dans ces élections, qu'est-ce que va apporter le traité de Maastricht, à quoi va servir le Parlement, etc. Donc, ça donnait envie de s'y intéresser. Maintenant, il n'y a plus vraiment d'échéance électorale comme ça. On nous donne à choisir entre les différents partis. Les partis, en fait, axent trop, on trouve, sur le national. Et du coup, ça donne encore moins envie de s'intéresser à l'Europe. Quand on nous dit, en fait, cette élection européenne, certains partis disent on va voter contre Macron, ben, les gens se disent, mais contre Macron, sur l'Europe, hein, ils ne voient pas bien l'intérêt, donc, alors que l'intérêt, il est vraiment au-delà.
Et il y a aussi peut-être les thèmes qui sont abordés lors de ces élections. Un thème malheureusement qui revient assez fréquemment, c'est le thème de l'immigration, qui revient sur le devant du tapis, on va dire de la nationalisation aussi, d'avoir l'esprit nation, l'esprit France. Et il y a d'autres sujets aussi qui mériteraient tout autant de débats et aussi d'éclaircissement. C'est sur l'écologie. Est-ce que c'est un thème justement que tu trouves qui est assez abordé, assez utilisé dans le cadre de cette élection européenne ?
Moi, je pense que l'écologie, bon, on en entend pas mal parler, mais néanmoins, tu vois, pour le coup, de mon expérience de mission politique, je peux te dire, mon cher Loïc, que dès que l'immigration entre sur le tapis, tous les autres sujets passent à l'as. Et peut-être que ça joue aussi, peut-être que les affects liés à ce sujet font glisser des sujets qui pourraient, pour le coup, motiver les jeunes, notamment leur avenir, l'écologie, l'économie, tout ça, fait passer tout ça sous le tapis. Après, c'est l'impression que j'ai depuis mon studio, mon cher Loïc, mais je ne suis pas expert politique.
Justement, on a souhaité avoir l'avis et aussi avoir les raisons de cette petite désaffection de certains thèmes, en tout cas de revenir sur le devant de la scène avec ces thèmes comme par exemple l'écologie, mais aussi le Brexit et ses implications au niveau français, bien évidemment, au-delà du Royaume-Uni. On écoute bien évidemment toujours Thibaut Drouet, qui est donc le secrétaire adjoint du mouvement européen 76.
Je pense que les nouvelles générations, en fait, entendent encore moins parler d'Europe qu'avant. Moi, j'ai grandi à l'époque où c'était le traité de Maastricht. Et donc, on parlait dans ces élections, qu'est-ce que va apporter le traité de Maastricht, à quoi va servir le Parlement, etc. Donc, ça donnait envie de s'y intéresser. Maintenant, il n'y a plus vraiment d'échéance électorale comme ça. On nous donne à choisir entre les différents partis. Les partis, en fait, axent trop, on trouve, sur le national. Et du coup, ça donne encore moins envie de s'intéresser à l'Europe. Quand on nous dit, en fait, cette élection européenne, certains partis disent on va voter contre Macron, ben, les gens se disent, mais contre Macron, sur l'Europe, ils ne voient pas bien l'intérêt, alors que l'intérêt, il est vraiment au-delà.
Toutes mes excuses, puisque si vous l'avez remarqué, bien évidemment, ce morceau SPAD vient de passer il y a quelques instants. Donc là, je vais vous passer, cette fois-ci, en effet, en lien avec l'écologie et le Brexit sur les ondes de Mixé Culture.
L'écologie, on la retrouve dans pas mal de programmes, justement. Mais je pense qu'on n'a pas encore vu la puissance de l'Europe qu'elle peut avoir sur les décisions écologiques. Là, je vais citer un exemple. La Commission européenne a décidé il n'y a pas très longtemps d'interdire l'usage des plastiques à usage unique. Et ça, je pense que au niveau européen, ça aura vraiment des conséquences. Au niveau des États, la conséquence pour la planète est assez mince. Mais que les partis en parlent, c'est très bien. Il faut se projeter en fait d'une telle décision au niveau européen. Qu'est-ce que ça impacterait? Qu'est-ce que ça apporterait à l'environnement?
Déjà, au niveau de votre organisme, vous avez fait une réunion, une rencontre avec les étudiants. C'était lieu avril dernier, en lien avec la Corpo Pasteur, sur les élections européennes, bien sûr, et sur le thème zone euro, Brexit, où va l'Union? Ça aussi, c'est un sujet du coup qui s'est immiscé au sein de cette campagne électorale, même si évidemment ça concerne surtout le Royaume-Uni, mais j'imagine que ça a aussi une incidence sur ces élections ici en France.
Oui, alors c'était un débat avec Jean Quatremer, qui est un journaliste très connu, permanent à Bruxelles, et donc il fait beaucoup d'articles en France, notamment pour Libération. Et donc oui, le Brexit, ça a été un peu pour nous un nouveau souffle. On a enfin parlé d'Europe dans les médias, donc un peu plus que d'habitude. Et c'est vrai que les gens se sont posés des questions toutes basiques. Mais si on sortait de l'Europe, qu'est-ce qu'on perdrait au change? J'étais par exemple en Angleterre en octobre et il y avait un jeune qui vendait des souvenirs. Je lui ai parlé de ça. Et il se rendait compte qu'en sortant du Brexit, il ne pourrait plus jamais, si ça se trouve, travailler en France ou en Allemagne, alors que c'était son rêve. Et donc je pense que ça fait un petit peu déclic dans la tête des gens en se disant, finalement, c'est peut-être pas terrible de sortir de l'Europe. Et là, on le voit justement, les partis, il y en a très peu qui proposent le Frexit.
Deux chiffres toujours issus de ce sondage IFOP, commandé entre autres par votre organisme, au niveau France évidemment. 69% des jeunes se sentent mal informés sur l'Union européenne et 71% manquent de confiance et ont davantage confiance aux institutions nationales qu'européennes. Est-ce que c'est une tendance que vous ressentez ici en Normandie?
Oui, c'est ce qu'on ressent un petit peu partout. Je vais prendre pour exemple, on était intervenu dans un lycée à Elbeuf et les jeunes ne savaient pas du tout, pour eux l'Europe c'était vraiment très loin, alors que ça les touche vraiment tous les jours. On peut parler d'Erasmus, on peut parler du passeport européen qui permet d'aller dans tous les pays, c'est très important.
Et oui, parce qu'en effet, Erasmus, on n'en parle pas encore, du moins assez peu dans les médias mainstream. C'est évidemment les conséquences que va avoir le Brexit, entre autres, et la sortie de l'Union européenne pour ceux qui souhaitent tout simplement étudier, bien évidemment, au Royaume-Uni, mais aussi les Anglais qui souhaiteront étudier dans l'Europe, que ce soit la France ou bien dans d'autres pays. On va revenir aussi avec Thibaut, justement, sur peut-être ce pessimisme ambiant qui, malheureusement, crée le sillon peut-être aussi d'un certain nationalisme exacerbé de la part de certains partis. Et puis aussi du rôle de l'Europe, c'est peut-être ça aussi la clé de ces élections, c'est peut-être de comprendre aussi le rôle de l'Europe, de cette Europe aussi qui a une incidence jusqu'en Normandie, puisque nombreux projets sont financés par le FSE, c'est le fonds de soutien européen qui organise de nombreux projets, que ce soit dans la construction de bâtiments culturels ou dans d'autres domaines. On écoute Thibaut nous raconter tout ça.
À notre sens, donc dans nos mouvements, on trouve que le Parlement européen n'a pas assez de pouvoir. Donc les eurodéputés ont quand même des pouvoirs, ils agissent dans certains domaines de compétences qui leur sont réservés, mais il faudrait vraiment aller au-delà, par exemple que le Parlement puisse élire, je sais pas, son propre gouvernement, un exécutif européen qui serait élu par les députés européens. Ça serait un bon moyen de promouvoir la démocratie européenne, et donc de se dire, par exemple, là je vote pour des eurodéputés qui vont nommer le Premier ministre de l'Europe, on se rendrait compte et ça serait plus fluide pour tout le monde. En fait, ce qui manque dans l'Europe actuelle, c'est un coupable, et quand on voit des décisions qu'on a du mal à comprendre, par exemple en France on dit c'est la faute de Macron, en Europe on dit c'est la faute de Bruxelles. Et c'est ça en fait, il y a personne qui rend compte des actes au niveau européen.
Alors que pourtant, justement, pour donner quelques exemples, puisque souvent la question qui revient assez fréquemment, c'est à quoi sert l'Europe finalement? Il y a beaucoup d'exemples, on peut en prendre en Normandie, puisque les fonds européens aident dans de nombreux cas, ça peut être dans la culture par exemple, via le fonds de soutien européen, le FSE. C'est ça l'Europe, c'est de soutenir des projets qui n'auraient peut-être pas vu le jour seulement avec que des financements au niveau national.
Oui, l'Europe par exemple en Normandie représente, enfin il donne à la Normandie 1 milliard d'euros sur 3 milliards de budget. Donc c'est un tiers du budget de la Normandie qui vient de fonds européens, c'est considérable. Et nous, en fait, on veut aussi aller au-delà de ça. On montre dans nos organisations ce qu'apporte l'Europe dans le quotidien des gens. Mais on veut montrer aussi ce que l'Europe pourrait apporter en plus à ces personnes-là. On voit par exemple la lutte contre les GAFA, enfin le réchauffement climatique, on en a parlé, l'évasion fiscale. Pour nous, l'Europe, elle a un gros poids à jouer là-dedans. La diplomatie aussi, par exemple, pour contrecarrer un peu l'hégémonie chinoise, américaine ou russe. Il faut voir un peu ce qui se passe en Normandie, chez nous, mais aussi il faut voir ce que l'Europe pourrait apporter dans le futur.
Évidemment, on ne pouvait pas clore cette interview, cet entretien, sans poser la question peut-être assez simple, mais ô combien essentielle, pourquoi voter pour ces élections européennes? On retrouve Thibaut avec ses derniers mots, et puis on fait un petit final avec toi Damien, d'ici, allez, 20 petites secondes.
Je leur dirais de venir nous rencontrer, de venir à nos débats, de s'intéresser aussi à ce que proposent les partis. C'est pas toujours très simple. Il y en a certains qui, dans leur programme, intègrent des choses qui ne sont pas du domaine de l'Europe. Donc c'est vrai que c'est assez dur, mais allez voir sur le site, par exemple, des Jeunes Européens, du Mouvement Européen, ou même de l'UF France, et vous aurez en fait des comparatifs des différents programmes.
Alors ces élections justement européennes, toi qui fais justement l'émission politique de la radio HDR, et j'imagine qu'évidemment on parle Europe, mais est-ce qu'on en parle réellement ou est-ce qu'on revient à chaque fois à un débat malheureusement très franco-français?
Moi je me suis donné comme petit défi à l'approche de ces élections européennes justement de ne pas parler d'Europe pour parler d'Europe, puisque ça vous concerne, on avait déjà fait une émission sur l'Europe il y a quelques temps, mais de parler de plein de sujets qui peuvent s'appliquer à l'échelle européenne. Et à chaque fois on en revient toujours un petit peu au grand sujet, la fameuse Europe. Et quand on parle d'Europe, parfois c'est vrai que ça dérive sur d'autres sujets que tu connais bien puisqu'on en a parlé tout à l'heure. L'Europe est dans tous les esprits, moi je crois, en politique et même chez les citoyens finalement. De toute façon, on en mange par paquet de 40 dans tous les médias depuis un petit moment, là, avec les élections européennes qui approchent. Hein.
Et quand on voit justement l'imbroglio, non pas juridique, mais électoraliste de la Grande-Bretagne, avec ce Brexit qui devait officiellement être acté le 29 mars, avec le vote évidemment le 29 mars 2018 et ce 29 mars 2019 qui n'a pas eu lieu, avec ce report qui serait, on va dire, aller reporter vers le courant octobre, donc en tout cas à la rentrée prochaine, ce qui suppose et ce qui va obliger... paradoxalement, les Anglais à voter pour des députés qui vont siéger que seulement quelques mois
Bah oui, moi je crois que là, sur ce Brexit et cette espèce de... Je vais me permettre d'être un peu, comment dire, un peu ambitieux dans mes propos, mais cette espèce de ridicule situation où les Anglais vont devoir payer, organiser des élections pour élire des députés européens que de toute façon, une partie d'entre eux n'ont pas envie d'élire et qui iront siéger pendant 3 mois... À Bruxelles, il trahit quand même quelque chose. Moi, je crois que le désamour de l'Europe, il vient de là aussi. On a l'impression que les institutions marchent en dépit de la voix des gens. Et là, les gens, en l'occurrence, ont voté pour sortir. Ils y sont toujours. Ils vont continuer à payer. Et je crois même que ça va jouer sur une impression d'être presque prisonnier de l'Europe. Moi, je pense qu'on est face à une situation terrible, mais très symbolique.
Et en effet, Theresa May qui est, j'allais dire, plus qu'au pied du mur, avec peut-être cette fois-ci un compromis qui va passer, en tout cas, du moins du côté travailliste. C'est plutôt mal parti avec justement Jeremy Corbyn qui a d'ores et déjà annoncé qu'il voterait contre ce énième plan proposé par Theresa May au sein du Parlement d'ici quelques heures, quelques jours. Et puis le spectre aussi, le fantôme de Nigel Farage qui était parti un temps avec le UKIP, c'était il y a quelques mois après cette victoire. Il est parti, j'allais dire, aussi vite que le parti a été créé quasiment. Et puis il revient avec justement le Brexit Party, qui est un nom, on va dire, on ne peut plus évocateur, mais peut-être on ne peut plus simpliste, comme le suggère un peu ses conseils de sortir à nouveau du Brexit, mais malheureusement de sortir, pardon, le Royaume-Uni de l'Union européenne, mais en tout cas sans avoir de réelle suite à ce Brexit, comme ça a pu être le cas avec le vote du 29 mars 2018. On va s'en finir là, on va s'arrêter là.
Comme
sur,
tu le souhaites. Hein,
sur ce petit
souhaites.
Débat, oui, puisqu'on va avoir un autre débat, et oui, puisque si vous êtes attentifs, et si vous avez été attentifs, mes chers amis étudiants, c'était Le Figaro dans la colonne étudiant qui a sorti cette nouvelle, donc sur justement tremblement de terre, séisme, on peut le dire, au sein de l'UNEF, évidemment au niveau national, mais aussi au niveau local, et on va voir Enzo, alors je dis président de l'UNEF, mais... Quasiment plus. On va en reparler puisqu'il y a une petite surprise qui est d'ailleurs parue il y a quelques heures, je crois 2-3 heures sur Facebook avec une nouvelle page. Et vous allez comprendre pourquoi on va parler de cette nouvelle page. C'est dans quelques instants avec Enzo. Et on va marquer à nouveau une pause musicale, toujours tirée justement de ce sublime festival Roche sur la presqu'île Rollet qui se déroule du 24 au 26 mai prochain. Cette fois-ci avec un groupe. Allez, on va se faire quelque chose de plus calme.
Par exemple, je crois que ça va être nécessaire parce que là, on a tous eu un petit coup dans les dents avec Mister Oiseau.
Exactement. On va se passer à un groupe régional, cette fois-ci, qui fera justement la grande scène. Ce sera le samedi 25 mai prochain, entre 20h et 21h. Le groupe, alors évidemment, à ne pas me prononcer lettre par lettre, sinon ça risque d'être laborieux et très moche. C'est Mannequins, s'il faut le prononcer à l'anglaise, avec le titre If Only They Could. C'est sur les ondes du mix des cultures. On vient juste après avec Enzo en direct sur le 99.uno.
If only they could.
Médiateur, ah bah écoute, je me voilà ravi de cette épithète, mon cher Loïc.
Et puis, nous avons notre invité en direct sur les ondes du Mix des Cultures, comme je vous l'ai dit en début d'émission, avec Enzo. Bonjour Enzo.
Bonjour, bonjour.
Alors Enzo, si les étudiants, si les auditeurs se rappellent, on a eu l'occasion de pouvoir t'écouter, c'était en fin d'année dernière, je crois, si ma mémoire est bonne, en décembre dernier, pour parler de la hausse des frais d'inscription. Je pense que c'est pareil, c'est un sujet dont on va reparler encore à nouveau, en tout cas d'ici la fin de saison, ou du moins en début de saison prochaine, puisque ça a été voté le 21 avril dernier, on va dire quasiment en catimini, voire sans quasiment
secret, oui,
promotion, voilà, en secret, tout à fait, pour reprendre ce terme-là. Mais on va parler d'une autre actualité, puisque ça a été aussi encore assez peu suivi, malgré cette petite bombe qui est parue dans le Figaro étudiant. C'était lundi dernier, donc le 19, si ma mémoire est bonne, non, le 20, pardon, lundi 20 mai dernier, donc en début de semaine, avec justement ce tremblement de terre, ce séisme. On parle même de schisme, d'ailleurs, interorganisationnel au sein de l'UNEF, avec en effet une partie assez importante de membres, et j'allais dire, on peut dire de cadres, entre guillemets, en tout cas, de membres de l'ex maintenant UNEF, comme c'est le cas justement pour toi, Enzo. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette scission, en tout cas d'une bonne partie des membres de l'UNEF au niveau national ?
Alors, cette scission, elle est assez historique du point de vue de l'UNEF et du syndicalisme étudiant en général. Parce que, en gros, il faut bien se dire que l'UNEF, c'est le syndicat historique des étudiants. C'est quelque chose qui existe depuis 1907 et qui vient de prendre un coup qui pourrait lui être fatal aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a eu 15 sections syndicales qui ont décidé, qui ont fait le choix, 15 sections syndicales et 9 membres du bureau national qui ont fait le choix de quitter l'organisation. En fait, donc ça représente une des tendances de l'UNEF qui était la tendance Unité Action Syndicale, plus une partie non négligeable de la tendance majoritaire de l'UNEF. Ce choix, il a été fait aujourd'hui pour tout bêtement parce que l'UNEF ne correspondait plus à ce qu'on voulait, ne correspondait plus à l'idée du syndicalisme étudiant qu'on avait. L'organisation était en fait trop sclérosée, trop inefficace, vieillissante et incapable de faire son autocritique.
J'imagine, sans faire de raccourcis trop flagrants, un peu comme un parti politique, j'imagine qu'il y a différentes affinités au sein de ce syndicat UNEF. En tout cas, ces différentes affinités sont arrivées à un point, on peut le dire, de non-retour finalement, ce qui a amené à cette rupture nette ces derniers jours.
Bah, c'est la gestion de ces différences d'affinités qui est à la base de beaucoup des problèmes qu'on soulève. En fait, l'UNEF, elle est organisée en tendance, en différents groupes qui ont des visions différentes du syndicalisme étudiant, qui ont des visions différentes de l'UNEF, de ce que devrait être l'enseignement supérieur et la recherche. Et le système en tendance, il était censé être là pour permettre une communication entre ces différents groupes. Et dans les faits, la seule utilité qu'il ait eu, c'est permettre à la tendance majoritaire, donc qui était plus proche, on va dire, du Parti Socialiste, de se maintenir tout en haut de l'organisation en verrouillant tous les statuts et en empêchant quiconque de défier son autorité. Du coup, c'est effectivement, là, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la deuxième tendance du syndicat qui est partie, avec une partie non négligeable de la tendance majoritaire. Et c'est pas pour rien, en fait. C'est une tendance qui a toujours... donc la TUAS, la tendance Unité Action Syndicale, c'est le groupe qui voulait réformer l'UNEF, qui voulait quitter ce système en faction opposée au sein du syndicat. Et devant l'impossibilité de le faire, en fait, devant le verrouillage bureaucratique de l'organisation, la décision a été prise en janvier dernier. Donc ça a pris un peu de temps à se monter, mais d'organiser le départ de notre départ de l'UNEF.
Alors justement, ce qui a officialisé, c'est donc cet article paru dans le journal Le Figaro étudiant avec, on peut dire, cette fuite, ce document d'une vingtaine de pages qui était du coup interne et finalement qui a été divulgué par la presse avec le nom de l'ensemble des signataires, c'est-à-dire, pour être précis, 86 personnes du coup qui partent de l'UNEF.
Alors du coup, c'est plus... En fait, alors, on ne s'attendait vraiment pas à ce que ce soit Le Figaro qui annonce ça, c'était vraiment pas notre ligne politique. En fait, ce texte de 20 pages, là, il a été fait un peu à la dernière minute, puisque l'annonce officielle était censée être aujourd'hui. Et en fait, c'est une fuite en interne du syndicat qui nous a amené à produire ce document. En gros, la direction nationale nous a grillé, si je puis dire. Et du coup, c'est ce qui nous a poussé à clarifier nos positions en interne de l'UNEF, donc à produire un texte de 20 pages dans lequel on expliquait les raisons de notre départ, on expliquait ce qu'on comptait faire à peu près. Et effectivement, on a fait signer un maximum de gens. Alors du coup, comme ça a été produit un peu au dernier moment, il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas eu le temps de rappeler, qui n'ont pas répondu, qu'on n'a pas mis sur la lettre. Mais voilà, sachez qu'on est plus, quand même plus nombreux que ça. Et oui, voilà, ce texte, il était censé être en interne pour permettre à ce que tout le monde sache ce qu'on voulait dire, ce qu'on portait comme message, avant que la direction ait pu raconter n'importe quoi à ses militants.
Damien ?
Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'elle contient, cette fameuse lettre, alors ?
Alors, elle contient pas mal de choses, parce que, comme on l'a dit, elle est quand même assez volumineuse. Du
22
coup,
pages, je crois.
Je crois que c'est 20 ou 22, mais c'est peut-être 22, mais les deux dernières pages, c'est les signataires.
Ah.
Mais du coup, oui, elle est assez volumineuse. Du coup, elle dresse un bilan de l'organisation. Donc, il y a une organisation qui a perdu des plumes, on va dire. Enfin, l'UNEF, c'est quand même plus que c'était avant. Qui refuse d'admettre cette perte de vitesse. Enfin, il faut savoir que dans les réunions nationales de l'UNEF, on nous disait qu'on était la première force étudiante, qu'on avait obtenu une grande victoire en perdant des élections, mais pas trop. Enfin, la direction a toujours refusé l'autocritique, a toujours refusé de prendre du recul sur sa situation, ce qui est un des points principaux de notre départ. Et on dressait un peu un bilan de ce qui s'était passé ces dernières années, de comment les choses avaient commencé à empirer, de comment la direction s'était enfermée, coupée totalement de la base et coupée totalement des étudiants, et comment ça se ressentait dans le réel, parce que c'est pas que des problèmes de fonctionnement interne, même si c'est beaucoup de problèmes de fonctionnement interne. Mais le problème, c'est que dans le réel, dans notre militantisme, dans notre présence sur les facs et dans la taille qu'a notre syndicat, en fait, on sent bien que ces dysfonctionnements internes, ils ont des répercussions énormes.
Ah oui, notamment là, vous avez... Je veux dire, en ce moment, on assiste à la chute d'un géant, quelque part, parce que l'UNEF est en train de tomber. Vous lui prédisez de survivre, vous, à ce coup de cimetière?
Je ne lui prédis pas un grand avenir. Non, l'UNEF, j'ai envie de dire, c'est une organisation qui a quand même vu beaucoup de choses et qui, on ne sait pas, elle peut toujours survivre. En soi, il y aura toujours... trois clampins, un Nanterre qui feront vivre le syndicat. Mais en soi, là, on voit quand même... ça faisait de quelques années qu'on voyait la chute... oui, effectivement, la chute du géant. Enfin, faut s'imaginer qu'à une époque, l'UNEF était majoritaire partout, à chaque élection. S'il y avait un problème quelque part sur une fac, ils envoyaient deux bus de militants dans la journée. C'est quelque chose qui n'existe plus. Enfin, oui, effectivement. Et là, on assiste quand même à la fin de ses chances de redresser la tête avant plusieurs années. Enfin, là, les sections syndicales qui sont parties sont quand même dans les plus combatives, dans les plus construites. Je veux dire, on a un exemple des sections locales de Rennes, de Nantes ou de Limoges. Limoges qui a été la seule section syndicale à obtenir des victoires locales pendant Parcoursup, quand même, qui a obtenu quand même... pas mal d'avantages, pas mal de hausses de budget, pas mal d'arrangements grâce à un blocage très long, en fait, de la fac. Et toutes ces sections syndicales, les plus combatives les unes que les autres, c'est toutes celles qui sont parties, au final.
Mais justement, vous n'avez pas peur que d'emmener le mal du vieux géant l'UNEF avec vous dans ce que vous allez créer?
Alors, on essaye d'éviter ça à tout prix. Nous, le but est effectivement de ne pas retomber dans les travers de l'UNEF. Alors... ça va se traduire de plein de façons. Déjà, on refuse totalement l'organisation en tendance à l'avenir. Et de toute façon, en fait, on va tracer les lignes qu'aura l'organisation en juin. On aura un congrès de fondation le 22, 23 et 24 juin. Et afin que tous les militants, tous les adhérents puissent établir ensemble la future ligne de l'organisation, ce qui permettra déjà d'éviter... Nous, on veut à tout prix éviter d'avoir un fonctionnement du haut vers le bas et monolithique, sans aucune consultation de la base.
Une dernière question, Enzo, si tu me le permets, avant de marquer une pause musicale, avant de se retrouver pour la deuxième partie, et aussi ce qui va arriver en terre rouennaise, en Normandie. Justement, par rapport à cet article, pour revenir au Figaro, donc, qui a fait en effet l'effet d'une bombe avec ce document d'une vingtaine de pages qui a été donc divulgué au grand public, et aussi un, on peut dire, droit de réponse ou une certaine tribune qui a été offerte justement à Mélanie Luce, l'actuelle présidente de l'UNEF.
Notre meilleure amie.
Qui a donc qualifié justement ces désaffections de marginales, disant que ça représentait à peine une dizaine de pourcents. D'autres chiffres monte plutôt à 20 voire 25%, peut-être si encore d'autres désaffections dans le courant des prochaines journées. Et je voulais justement avoir un droit de réponse te concernant, puisqu'en effet on n'a pas eu justement de droit de réponse dans cet article avec ceux qui ont désaffecté l'UNEF.
Nous on n'a pas trop on voit pas trop l'intérêt de répondre à Mélanie Luce, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, en fait, ça fait des années et des années que l'UNEF va de mal en pis, qu'on leur dit à chaque collectif et qu'ils refusent de l'entendre. Là, c'est une fois de plus, c'était la fois de trop. En fait, on leur a dit que c'était définitivement irrattrapable et on est parti. Et encore une fois, ils refusent de prendre ça en compte, ils refusent de prendre du recul. Nous, ça nous surprend pas. Et, vraiment, on n'attendait pas de réaction particulière de Mélanie Luce, quoi. Nous, on veut plutôt s'adresser aux militants de base, aux militants locaux sur les sections syndicales, qui eux savent très bien l'état de l'UNEF, qui eux savent très bien comment c'est sur leur campus, comment le syndicat a perdu depuis des années. Et eux savent très bien ce qui se passe et eux comprendront très bien ce qu'on leur dit.
On va revenir bien évidemment sur ce qui va se dérouler dans le courant des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois en local à Rouen avec toi Enzo. D'ici quelques instants, on va marquer une coupure avec toujours un groupe qui fait partie de cette programmation du Festival Roche. Et cette fois-ci, on va s'attarder à la date du dimanche 26 mai prochain avec un groupe toujours sur cette scène, cette grande scène, bien évidemment, qui va encore pulser à fond avec le groupe Beak. C'est un groupe justement qui vient du Royaume-Uni, plus précisément de Bristol, et je vous avais promis justement la petite session vinylistique, cet extrait de leur tout dernier album qui est disponible un petit peu partout, en tout cas dans les bons labels et les bonnes crèmeries. C'est Beak sur les ondes du Mix des Cultures avec le titre suivant, ça s'appelle Brain Down sur les ondes du Mix. Thank you. À l'instant, c'était Beak, made in Bristol, UK, avec le titre, à l'instant, extrait de leur dernier album, Brendan, sur les ondes du Mix des Cultures. Ils seront donc en concert dans le cadre du Festival Roche au 106 le dimanche 26 mai prochain. Et ce sera pour les horaires entre 18h15 et 19h15. Un petit jingle et on revient juste après. À tout de suite.
Vous écoutez HHHTTHTR.
C'est tout à fait normal.
C'est sur le 99.1.
Et après, ils vont l'apprendre, ils vont l'acquérir, et puis ça va être de l'automatique.
Et voilà, deuxième partie, toujours en compagnie, bien évidemment, d'Enzo, notre invité, et puis de Damien, notre sniper local, notre sniper politique.
Du calme, du calme.
On va revenir justement, alors c'est vrai que j'ai fait un petit lapsus hors antenne, puisque maintenant on va parler justement du FSE, alors non pas le FSE, Fonds de Soutien Européen.
Et du coup, on dit la FSE.
Voilà, on va parler de la FSE, exactement comme tu me reprends de manière correcte. Enzo, Fédération syndicale étudiante. Alors c'est vrai que c'est assez frais puisque des postes arrivent sur cette page et un communiqué de presse d'ailleurs est sorti il y a quelques heures. Est-ce que tu peux du coup nous parler de cette FSE qui j'imagine va regrouper une bonne partie, voire la quasi-totalité des 86 personnes qui sont parties de l'UNEF?
Alors la totalité, hein, tout bêtement. En fait, c'est la FSE, donc la Fédération syndicale étudiante, c'est une organisation qui a déjà existé entre 2001 et le début des années 2010. En gros, alors c'est compliqué, il faut savoir qu'il y avait deux UNEF à une époque, et c'est donc une partie de l'UNEF plus de gauche, dirons-nous, qui a refusé la fusion avec l'UNEF ID, donc qui était l'UNEF géré par le Parti Socialiste, dont l'UNEF actuelle est l'héritière, et donc a refusé la fusion à peu près sur les mêmes bases que ce qu'on revendique là, c'est-à-dire le système en tendance verrouillé, le manque de démocratie, les campagnes locales imposées par le national, etc. Du coup, le nom est une référence. Du coup, c'est la nouvelle organisation qu'on lance, on a décidé de la nommer de la même façon. Voilà, si tu as d'autres...
Hop là, c'est mieux si je lève le
avec
micro.
Le micro allumé.
Donc, Fédération syndicale étudiante, je vais laisser Damien poser la prochaine question.
Moi, j'ai peur, et je vous interroge sur ce sujet, parce que je crois que c'est important, que FSE, ce soit juste une façon plus de gauche de dire UNEF, en fait. J'ai déjà posé la question tout à l'heure, je vais la poser différemment, mais finalement, on parle de militants, on parle de problèmes internes, mais il n'y a pas que des militants et des problèmes internes à la fac, il y a aussi des étudiants. Et moi, j'avais l'impression, dans mes jeunes années étudiantes, que finalement, l'UNEF parlait pour l'UNEF et les autres étudiants, ceux qui étaient à blindes dans les amphis, ceux qui avaient la pluie dans les salles, ceux qui avaient des problèmes parce que le bus se pointait pas à l'heure le jour des partiels, eux l'UNEF finalement ils en entendaient parler pour les élections, on avait les petits tracts et tout et on s'occupait pas d'eux. Est-ce que au-delà des militants vous escomptez aussi accroître une interaction avec les étudiants qui moi je crois se sentent un peu abandonnés par l'UNEF en général et même par les syndicats étudiants?
Alors nous, on porte une vision totalement différente du syndicalisme étudiant par rapport à l'UNEF. En fait, c'est une vision qu'on a toujours essayé de porter en interne, mais comme je vous le disais, le système de l'UNEF était fait pour qu'on ne puisse pas la porter très très, très haut. Du coup, nous, on prône évidemment ce qu'on a, le syndicalisme de masse. On a pour but de faire... Alors, ce que veut dire le syndicalisme de masse, c'est pas que tout le monde doit adhérer à la FSE, c'est que la FSE doit être à l'écoute des masses étudiantes et agir pour elles. Alors, ça se traduit de plusieurs façons. Déjà, c'est effectivement, tu parlais des élections, c'est une baisse de l'électoralisme. Nous, on n'est pas, comme l'UNEF l'était, à faire des élections l'alpha et l'oméga de notre militantisme. Moi, je le dis honnêtement, j'ai vraiment... Ça ne me fait vraiment rien si on perd une élection quelque part. Le projet, c'est d'aider les étudiants concrètement. Et je pense que d'ailleurs, les victoires électorales viendront de fait si on a un militantisme actif, présent et au service des étudiants. Voilà.
Et les défaites dans le cas inverse d'ailleurs. Bonjour à l'UNEF.
Oui, c'est ça. Et les défaites quand on ne s'occupe pas des étudiants et qu'on vient un jour d'élection pour juste récupérer des votes, généralement ça ne marche pas très bien. Ça a été constaté par tout un tas d'organisations.
Un mot justement concernant, puisque les élections malheureusement ont des scores, j'allais dire, qui frisent peut-être presque la blague, le jeu, d'ailleurs toutes tendances confondues. Alors quelles seront justement les solutions mises en place par la FSE pour redonner aussi certaines lettres de noblesse justement, alors pas qu'à ces élections, mais aussi dans le monde syndical et étudiant, parce qu'on voit en effet, un peu comme l'Union européenne, une certaine désaffection des étudiants, quelles que soient d'ailleurs les affinités, quels que soient les bords politiques des étudiants.
C'est même pire, je crois.
C'est pire que l'Union européenne. En fait, il faut savoir que... alors, il n'y a pas longtemps, il y a eu les centraux de l'université de Rennes 2. C'est une des facs où il y a eu le plus de participation. C'est-à-dire qu'entre 15 et 20% des étudiants ont voté, je crois, ce qui est quelque chose de vraiment exceptionnel dans le monde étudiant. Là, si on parle, pour vous donner l'opposé inverse, il y a des facs, je crois que c'est Bourgogne-Franche-Comté, où à l'université, à l'élection des conseils centraux de l'université, il y a eu 1% de participation. Enfin, c'est pour vous dire vraiment le désintérêt des étudiants pour les élections. En fait, nous, on fait un constat très simple. Ces élections, elles ne sont pas faites pour que les étudiants participent. C'est-à-dire que les universités ne communiquent absolument pas dessus. Il y a tout un processus qui est mis en place pour éviter une trop grande participation étudiante. Et puis, les étudiants eux-mêmes, tout bêtement, en fait, voient qu'ils votent pour une liste, ils votent pour... que ce soit l'UNEF, que ce soit la FAGE, que ce soit Solidaire étudiant ou quoi, et ils ne voient pas d'amélioration de leurs conditions de vie ou de leurs conditions d'études. Parce qu'en fait, ces conseils de l'université, les étudiants, ils n'y ont quasiment aucun poids. Il faut savoir qu'au conseil d'administration de l'université, par exemple, on est 6 élus étudiants sur une trentaine, quarantaine de personnes. Même si on vote tous en bloc, même si on était tous d'accord qu'une liste avait l'intégralité des sièges, en fait, notre poids, il est vraiment minime. Et... du coup, nous, en fait, on ne base pas notre militantisme sur les élections et donc on ne base pas notre militantisme sur les conseils. On pense que c'est les mobilisations des étudiants qui peuvent changer les réalités d'une fac. Et que les conseils, en fait, ils suivront, ils seront obligés de suivre en cas de forte mobilisation, mais ce n'est pas en ayant fait une grosse campagne électorale et en ayant plus d'élus au conseil d'administration de la fac qu'on pourra améliorer les conditions de vie des étudiants. Alors c'est aussi en siégeant à ce conseil, en sachant ce qui s'y passe ou quoi, et en ayant quelqu'un pour y déposer des motions, mais c'est pas en ayant plus d'élus que ces motions passeront, c'est avec le soutien des masses étudiantes.
Alors justement, on peut reprendre un exemple très concret sur l'université de Rouen qui est peut-être assez symptomatique justement de ces élections. C'est lors des dernières élections du vice-président étudiant, un seul candidat qui a d'ailleurs démissionné en cours de route. Ce qui fait que finalement, on a l'impression que même les organisations ne croient plus finalement en la représentativité au sein de l'université de Rouen.
Oui, en fait, faut savoir en plus que les raisons de la démission de vice-président, elles ne sont pas... du coup, le vice-président qui était membre de l'UNEF, elles sont totalement liées à ce que je raconte là. En fait, le vice-président étudiant, quand il a été élu, il est effectivement le seul candidat, ce à quoi la présidence ne s'attendait pas. Du coup, la présidence a été obligée de se faire avec un VPE donc, qui était UNEF, qui était quand même un peu plus combatif que prévu. Et du coup, la solution trouvée, elle était très simple, c'est que ce VPE, il n'a plus été invité... aux réunions de cabinet de la présidence, son bureau a été déplacé dans un autre bâtiment que celui de la présidence, et on a refusé de travailler avec lui. En fait, c'est la preuve que des élus étudiants ont seulement le poids que l'administration veut bien leur donner.
Je crains qu'il ne nous reste assez peu de temps, mon cher
oui,
Louis.
Il reste encore 3 minutes avant de passer à la prochaine émission, puisque comme c'est un autre confrère, Mr. Bachir, l'émission Edutainment, qui va prendre le relais d'ici 3 petites minutes, donc le temps encore de poser une dernière question, et puis de parler aussi, bah, pourquoi pas, de l'avenir justement de la FSE, savoir à quelles occasions on va pouvoir vous retrouver, vous rencontrer, et comment vous contacter aussi.
Bon alors, l'ultime question. Je ne crois pas que mes amis étudiants et les étudiants en règle générale lisent le Figaro étudiant, à
c'est
part
vrai.
Peut-être quelques-uns, ou en tout cas pas dans les facs de lettres que j'ai pu fréquenter. Comment allez-vous annoncer aux étudiants cette scission de l'UNEF, et croyez-vous que ça va faire du bruit, ou pensez-vous que ça va disparaître et que vous allez rejoindre l'UNEF dans la liste des syndicats nés morts?
Alors nous, on fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, où c'est vrai, on trouve plus d'étudiants. On fait quand même de la communication sur Radio HDR, qui est quand même une radio éminemment réputée. Surtout, on sera là sur le terrain à partir de la rentrée prochaine pour proposer nos services aux étudiants. Actuellement, ils peuvent nous joindre. L'ancienne page Facebook de l'UNEF Rouen a été renommée Et donc maintenant, la page Facebook FSE Rouen, il y a un compte Twitter, il y a un site internet de la FSE nationale, il y a des adresses mail locales, fse.rouen-gmail.com. Il y a 1000 façons de nous contacter et donc les étudiants peuvent toujours... Alors, d'ailleurs, on continue de gérer les problèmes individuels qui nous avaient été remontés à l'époque de l'UNEF. Donc voilà, vous pouvez toujours nous contacter en cas de soucis, en cas de questions. Si un prof a été odieux pendant les examens, c'est le moment de nous le remonter aussi. Voilà.
Je garderai un œil sur vous, ne me décevez pas.
Pas de souci.
Eh bien, en tout cas, merci Enzo d'être venu en direct dans le studio de la radio HDR. Et bien sûr, tu es ici comme chez toi, évidemment, comme toutes les autres organisations étudiantes présentes sur l'Université Rouen-Normandie. Merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, un plaisir.
Merci beaucoup, mon cher Damien.
Mais merci à vous deux. Merci à vous deux pour cette chouette émission. J'aime bien être à Campus Mac.
Bah écoute, reviens aussi comme tu veux, hein. Tu es ici, j'allais dire, comme chez toi.
Avec plaisir.
Avec grand plaisir. Merci en tout cas Enzo qui était en direct et depuis les studios de la radio HDR. Et puis un merci également aussi à Thibaut Drouet, le secrétaire adjoint du mouvement européen 76. Une dernière chose à vous dire, bien évidemment, surtout c'est d'aller voter pour les élections européennes, quelle que soit évidemment votre tendance politique, vos affinités politiques, en tout cas il faut voter, c'est un droit, donc autant l'utiliser, et les élections ont lieu bien évidemment en France le dimanche 26 mai, donc dimanche prochain. Dans quelques instants, il va y avoir Bachir avec Edutainment, juste après le jazz avec Michel Jules, les années jazz, et bien évidemment autre émission ô combien sublime et magnifique en direct aussi, c'est à partir de 20h avec Cafro et Mister Dims, entre autres. Voilà, passez une excellente fin de journée, très bonne semaine à vous et à très bientôt. Au revoir.